Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Monsieur Germain est en notre compagnie, bien sûr. Alors, salut monsieur.
Salut Antoine, ça va bien?
Absolument. Alors, toi, cette semaine, tu as assisté à la présentation, tu as échangé des informations notamment sur un autre véhicule électrique, un autre VUS qui arrive,
ouais.
Le Cadillac Lyriq.
Oui, on prend un tout nouveau virage avec Cadillac. Le Cadillac Lyriq, on nous avait dévoilé là, des petites informations à gauche et à droite pour nous présenter le véhicule. Là, on nous avait mis en haleine depuis quoi, quelques semaines, quelques mois même.
Ouais.
Et là, on nous l'a présenté, mais on nous a donné pratiquement aucune donnée technique. Autrement dit, pour ce qui est de l'autonomie, ben on nous a juste dit ben ça va être plus de 485 km pour une charge. Mais est-ce qu'il va y avoir plusieurs variantes? Ça, on ne le sait pas. On n'a pas de prix, on n'a pas de données d'accélération, on n'a rien. Donc,
c'est ça.
On a vu les photos du véhicule. C'est assez audacieux quand même comme
oui,
silhouette.
Oui, on reconnaît des traits Cadillac là, quand même. Là,
oui, la partie avant fait très CT6, si tu veux mon avis. Mais c'est un VUS, mais qui demeure assez trapu dans sa présentation. Assez plat, mais ça ressemble pas à grand-chose d'autre, je te dirais.
Donc ça va arriver sur le marché pas avant 2022.
Ouais.
Et puis, évidemment, attendez-vous à des prix qui vont aller jouer dans les zones du Audi e-tron, etc. Là, ça va être un véhicule de
oui,
de
oui, il n'y aura rien d'accessible là-dedans. Non. Ce sera pas... Il n'y aura pas de subvention gouvernementale qui vont être applicable là-dessus. Donc, oui, on va offrir un véhicule électrique chez GM, mais ça va être un véhicule de luxe.
Bon, Hyundai qui annonçait, qui confirmait non seulement l'abandon de la Hyundai Accent, mais également de la Veloster, sauf pour une version performance.
Oui, exactement. Donc, l'Accent qui quitte le marché canadien, malheureusement. Donc, on sait que c'était déjà un grand succès, principalement au Québec. C'était une petite voiture, on se rappelle, à faire en trois portes, en berline, en version plus tard à cinq portes.
Ouais.
Donc, des configuration qui était quand même intéressante, mais malheureusement, tout ça disparaît parce que, ben on le sait, là, on met l'emphase sur le Venue qui est un micro VUS basé sur l'Accent finalement. Et, ben oui, comme tu le disais, la Veloster, c'est une histoire qui se termine déjà. Donc, la version de base et la version turbo régulière, elles disparaissent toutes les deux. Et tout ce qui va rester, ben, c'est la version la plus radicale, la plus performante qui est la N. Donc, mais de toute manière, chez Hyundai, on essaie de mousser un peu cette nouvelle sous-marque qui vise les performances. Donc, c'est peut-être ça l'optique. Et on en a vendu plus que prévu de la Veloster N. Donc, pourquoi pas la garder finalement?
Voilà. Alors, c'est une voiture d'exception qu'on va comparer à une Honda Civic Type R, qu'on va comparer à une Mini Cooper JCW GP, qui fait à peu près la même puissance. En fait, la Mini fait 301 chevaux comme la Hyundai.
Ouais.
Alors, deux bagnoles assez comparables. C'est des petits bolides bien, bien, bien le fun, mais évidemment, qui peuvent te faire perdre ton permis assez rapidement.
Oui,
aussi.
Ça, et souvent, elles sont très voyantes. Là,
ouais.
La Veloster N, on la voit souvent.
Dans une espèce de bleu bébé.
Oui, bleu, quasiment bleu nordique. Là, c'est assez voyant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ça peut attirer effectivement l'attention des corps policiers.
Donc, parlant de performance, un des gros événements dans le monde automobile au niveau de la performance, de la modification aussi, c'est le SEMA Show de Las Vegas qui est annulé cette année.
Ben écoute, je sais pas sur quelle planète vivaient les organisateurs. J'étais personnellement étonné que le salon ait pas encore été annulé.
Ouais.
Mais cette semaine, on s'est rendu à l'évidence. Il n'y aura pas de salon SEMA pour 2020. On repousse tout ça à 2021. Le prochain salon, finalement, ça risque d'être celui de Los Angeles, qui se tient normalement en novembre, mais on n'a rien annulé pour le moment. Encore là, si on devait l'annuler, c'est pas moi qui va être surpris, là.
Non, absolument pas. Bon, Infiniti, il se passe quelque chose chez Infiniti.
Oh ben, oui,
bref,
oui.
On a dévoilé le QX55, en oui. fait. Puis c'est un véhicule qui a qui on tarde a
dévoilé,
à arriver.
Oui, c'est ça. On l'a dévoilé, mais il faut dire ça vite. On a dévoilé un aperçu du véhicule et son nom, c'est-à-dire QX55. Ça va être une version coupée, un VUS là, coupé, basé sur le QX50.
Oh, ouais, c'est exactement un QX50, mais c'est le QX55 est au QX50, ce que le X4 est au c'est X3 ça. Chez BMW. Là. C'est pas plus compliqué que ça.
Voilà, mais encore là, pas beaucoup de détails techniques. On y va au compte-gouttes. On en saura certainement un peu plus à une date plus près de sa commercialisation.
Tu nous parles de Gordon Murray Automotive comme un héritage à McLaren, dans le fond.
Oui, ben écoute, Gordon Murray, qui est l'homme derrière la McLaren F1, mm-hmm. C'est rare qu'on parle là, de supercars qui se vendent là, à quelques unités dans le monde, mais là, je pense que ça valait la peine. C'est une voiture vraiment exceptionnelle. Moteur V12 Cosworth de 650 chevaux. C'est rafraîchissant de voir ça apparaître dans le milieu automobile dans lequel on évolue. Absolument. Vous irez voir les photos, là, je pense qu'elle parle par elle-même sur le site du Guide de l'Auto. Puis quand on la regarde, pas le choix d'admettre qu'elle ressemble à la McLaren F1 et c'est tout sauf un défaut, ça.
Et ça, on va vendre ça prochainement?
Ben écoute, ça va être un prix, il n'y a pas de doute, élevé. On est à 2,3 millions de livres sterling. Ah, ça, en dollars canadiens, on est à 4 millions de dollars. Et il y en a à peine une centaine là, qui vont être assemblés. Donc, si tu en veux une, mets tout de suite ton nom sur la liste parce que je pense que le calepin va se remplir. Ça sera pas bien long.
Germain, tu veux nous parler comme véhicule de la semaine de la Lincoln Continental, dernière berline produite par le constructeur, la division Lincoln, qui abandonne cette année la Continental, aussi la MKZ.
Oui, tout à fait. Donc, et si tu veux mon avis, c'est une manière de bien finir parce que la Continental était, si tu veux mon avis, une belle manière de terminer. C'était une véritable Continentale. Tu sais, quand on conduit une MKZ, on a un peu l'impression d'être dans une Ford qui a du cuir un petit peu plus haut de gamme, puis ça s'arrête là. Dans la Continentale, on est ailleurs complètement. C'est aussi, à mon avis, la dernière grosse berline authentiquement américaine avec laquelle on mise 100% sur le confort. Écoute, il n'y a rien de plus silencieux, de plus confortable chez les Américains que cette Continentale-là. C'est une très belle voiture en plus. Et comme il s'en vend très, très peu, j'ai hâte de voir comment elle va évoluer, peut-être dans le milieu de la voiture de collection. C'est sûr qu'à entretenir pour les 25 premières années avant qu'elle devienne ancienne, ça va peut-être être un casse-tête. Le modèle que j'avais avait le V6 3 litres biturbo.
400 chevaux.
Franchement, c'est une belle mécanique. Oui, c'est silencieux, là, donc on ne réveillera pas les voisins avec ça, mais ça avance, ça, il n'y a aucun doute. Il y a du couple en masse, hein, parce qu'on est à 400 chevaux, mais 400 livres-pieds aussi. Ouais. C'est assez efficace. Et petite anecdote, pour quand tu es assis dans la voiture, pour ouvrir la porte, ben, tu as juste à prendre la poignée dans ta main et il y a un bouton là, qui est
à l'intérieur de la poignée, c'est ça.
Oui, qui est vis-à-vis là où tu placerais naturellement ton pouce. Et il y a un système électrique qui permet d'ouvrir la porte. Là, tu te dis, OK, si tout ça tombe en panne, si tout ça ne fonctionne plus, t'es coincé dans la voiture, ben non, il y a une grosse clenche qui est zéro subtile, qui est placée juste en dessous. Franchement, on aurait peut-être pu camoufler ça. Donc, exercice à moitié réussi pour ça. Mais pour tout le reste, franchement,
c'est une voiture qui n'essaye pas de jouer les sportives, non, qui n'essaye pas de rivaliser avec Audi puis BMW.
On n'a aucune prétention de ce côté-là. Confort, luxe, silence, tout est là. Avec une prestance et je vais m'en ennuyer.
Oui, c'est une très belle voiture. Le problème, c'est qu'actuellement, comme tu dis, ça ne se vend pas. Et dans l'usager, si vous regardez un modèle qui a 2-3 ans, ça se vend pour un prix dérisoire, parce que cette voiture-là coûtait quoi, grosso modo, 80 000?
80 000, juste.
Puis tu vas trouver des exemplaires 2017-2018 en bas de 50 000 facilement. Là.
C'est ce qu'on appelle de la dépréciation.
Pas mal.
De ton côté, tu as conduit deux VUS sous-compacts.
Rivo.
Oui, exactement,
en fait,
Rivo, des Rivo direct.
Le Kia Seltos et le Chevrolet Trailblazer, qui sont deux véhicules Rivo, carrément. Alors, le Seltos qui vient se glisser entre, bien sûr, la Soul et le Sportage, et Chevrolet, ben, le Trailblazer qui vient se glisser entre le Trax, qui demeure sur le marché.
Oui, étonnamment, hein, parce qu'on aurait pu être porté à croire que le Trailblazer allait le remplacer, mais pas pour le moment.
Non, pas pour le moment. Le Trailblazer vient se placer au-dessus et évidemment derrière l'Equinox. Donc, c'est deux approches un peu différentes, mais quand tu stationnes les véhicules côte à côte, tu as vraiment l'impression qu'ils ont été dessinés la même journée par la même équipe de designers. Là. Des traits, les formes du capot, la forme du pare-brise, il y a beaucoup d'éléments qui sont très semblables.
Mais sur le plan mécanique, c'est totalement différent.
Complètement différent. Et moi, j'ai roulé beaucoup avec le Seltos, un petit peu moins avec le Trailblazer, mais que je conduirai aujourd'hui beaucoup plus puisque je me rends du côté de Québec avec le véhicule pour le présenter demain matin à Salut Bonjour.
Ouais.
Mes impressions jusqu'à maintenant, c'est que je ne suis pas un fan de la mécanique du Trailblazer, qui est un 3 cylindres de 1,3 litres turbo-compressé, jumelé à une boîte automatique à 9 rapports, et c'est le moteur optionnel.
Oui, parce que ça, c'est la crème de la crème pour ce modèle-là.
Voilà, alors 155 chevaux, mais dans les modèles d'entrée de gamme, c'est un 3 cylindres de 1,2 litres de 137 chevaux qui est jumelé avec une boîte CVT. Et ça, même les gens de Chevrolet nous ont dit « Non, non, on vous les fera pas essayer, ceux-là. »
Non, parce qu'ils savent que peut-être pas la formule la plus gagnante.
Mais outre la motorisation, qui, moi, ne me plaît pas, parce que en réalité, l'objectif ultime d'offrir une mécanique comme ça, c'est de sauver à la pompe. Et t'économises pas d'essence par rapport à la compétition. Ce sont les mêmes cotes de consommation que la compétition. Je pense à un CX-30 avec un moteur 2.5. Ben, on est à peu près à la même place. Tu sais, bon. Fait qu'il y a pas d'intérêt là. Et surtout, c'est que quand tu fais forcer le véhicule, un, c'est moins agréable au rendement, et deux, là, ça va consommer plus parce que le moteur travaille plus fort. Alors, l'avantage d'un 3 cylindres, il n'y en a pas, mais le Chevrolet Trailblazer est un véhicule qui se conduit très bien, qui est super bien pensé, très bien aménagé au niveau de l'habitacle. Tu peux replier à plat le siège du passager, ce qui fait que tu peux avoir un plancher plat à la grandeur du coffre au tableau de bord.
OK. Donc, même si c'est un tout petit véhicule, il y a moyen de loger un peu si on est mal pris.
Super pratique. Puis du côté du Seltos, c'est un peu plus traditionnel comme approche. L'ergonomie intérieure, elle est parfaite, mais le confort des sièges, je vais le donner à Chevrolet. Chevrolet a des sièges plus moelleux, plus enveloppants en même temps. Le Seltos, pour avoir roulé longtemps avec, l'assise est ferme, il n'y a pas beaucoup de support. Tu as une bonne position de conduite, mais je préfère le confort des sièges de Chevrolet. Puis au niveau de position de conduite, polyvalence, les deux véhicules se rejoignent énormément. Chez Kia, tu vois, l'approche mécanique, c'est un 2 litres 147 chevaux dans les versions... dans la plupart des versions, en fait.
Donc là, on est beaucoup plus traditionnel.
Oui, plus traditionnel, mécanique de la Forte.
Oui.
Et sinon, ben, dans le cas de la version que j'ai essayée, qui est une SX, ben, c'est le moteur turbo 176 chevaux 1.6 qui est jumelé avec une boîte double embrayage. Ça m'effraie.
Donc, on n'a pas mis la fameuse boîte IVT, là.
La boîte IVT va être offerte avec le moteur 2 litres.
Ah, d'accord. Okay.
Et donc, c'est ça. C'est que jusqu'à maintenant, il y a eu des petits pépins avec la boîte IVT. On mm-hmm. espère que ça a été corrigé.
C'est pour ça que je le relevais, là.
Et le moteur turbo, on a aussi eu des problèmes. Alors, est-ce qu'on va régler ça? Espérons-le, parce que sinon, c'est un produit qui est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, ils en vendent énormément. On en a vendu plus de 1400 le mois dernier au Canada.
Wow.
Des Seltos. C'est vraiment, vraiment un produit populaire. Et c'est sûr que le Trailblazer va être aussi un produit populaire. Puis maintenant, quand tu compares les prix, ben l'avantage est à Kia parce que à 32 500 $ le Seltos est équipé au bouchon, alors que pour avoir un véhicule tout équipé chez Chevrolet, tiens-toi bien, tu es à 37 000.
Ça commence à faire beaucoup.
C'est de
là.
L'argent, là, pas à peu près. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de sous pour le Trailblazer. Moi, ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré. Par contre, pour les taux de financement, on est plus agressif actuellement chez Chevrolet que chez Kia, ce qui fait que les paiements de financement se ressemblent énormément. Mais le prix
initial... Et ça,
initial,
ça peut varier là, d'un trimestre à l'autre.
C'est ça. Alors, petit avantage du côté du Kia Seltos, parce que on a des mécaniques qui sont plus traditionnelles, plus efficaces à mon avis, et parce qu'il est moins cher. Mais sinon, deux produits très, très, très impressionnants.